j'avais bien compris ce que c'était.
D'accord. Le nom d'une association me revient, donc si jamais tu veux voir sur internet, c'est Alimentaire, mais Terre avec T-E-2-0.
D'accord, oui, je connais.
Ouais,
Compagnie.
Ouais.
Alors, la consigne de présentation, c'est le lien avec l'alimentation.
Si jamais tu as déjà entendu parler de sécurité sociale de l'alimentation, d'accord. Et tout.
Alors, je suis Stéphanie, je suis sociologue à l'université, co-responsable d'un master métier de la culture, développement et action culturelle dans les territoires. Notamment les étudiants et étudiantes qui avaient fait un diagnostic partagé sur la ville de Roubaix étaient partis sur les questions de l'alimentation et comment. Enfin, les solidarités alimentaires, etc. Et donc, on avait un peu circulé dans les informations relatives à ces enjeux-là, mais je reste encore très à distance. Mais en tout cas, je me sens aussi très concernée.
Ok. Du coup, je vous propose de refaire peut-être juste dépeindre rapidement les constats qui nous ont amené j'ai une petite voix aussi à être. Les constats qui ont amené à ce projet sécurité sociale de l'alimentation, juste pour qu'on comprenne bien à quoi on cherche à répondre par cette proposition. Donc il y a deux constats, mais on pourrait dire trois. Les deux constats, c'est un, une dualisation des systèmes alimentaires, enfin des modèles agricoles et alimentaires aujourd'hui, qui ne permettent pas la transition du système alimentaire. Et deux, le fait que le droit à l'alimentation est bafoué en France. On a un système alimentaire, enfin dominant, qui est le système alimentaire agro-industriel, qui maximise le profit au détriment des travailleurs, donc que ce soit les paysans ou l'ensemble des travailleurs du système alimentaire jusqu'aux caissiers, etc., les transformateurs, les distributeurs, et avec tout un tas d'enjeux, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, et je pense que ce serait mieux d'avoir plus de temps pour présenter le projet. Mais énormément d'enjeux autour notamment de la précarité des agriculteurs, de la perte d'actifs agricoles en France, des travailleurs agricoles étrangers qui doivent bafouer leurs droits aussi parce que méconnaissance du droit français, etc. Bon, bref, pas mal d'enjeux sociaux à ce niveau-là. Un système alimentaire qui se fait aussi au détriment de l'environnement avec 21% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au système alimentaire en France. Qui contribue également à l'effondrement de la biodiversité, aux pollutions des eaux, du sol, de l'air, et également au manque de résilience des systèmes agricoles et d'élevage, avec une perte de diversité aussi domestique des plantes et des animaux qu'on sélectionne et d'autre part, un impact sur les consommateurs, donc les scandales sanitaires, d'intoxication alimentaire, etc., mais plus largement tous les problèmes de maladies alimentaires qu'on a aujourd'hui, d'obésité, de diabète, de cancer. Avec un chiffre qui a été donné par un chercheur de l'INRA, qui s'appelle Anthony Fardet, qui a écrit un bouquin qui est d'ailleurs cité dans le livre, pour ceux qui étaient à l'atelier d'avant, l'atelier paysan, le livre qui a fait l'atelier paysan, pour prendre la terre aux machines, qui dit que 36% des décès en France sont dus à une mauvaise alimentation, et la mauvaise alimentation, elle est définie comme une alimentation avec du déséquilibre dans les acides aminés, dans les nutriments, avec beaucoup de conservateurs, des produits transformés. Donc en gros, toute l'alimentation issue de l'agro-industrie qui est du coup l'alimentation dominante. Donc un gros enjeu à ce niveau-là. Et donc face à ça, on a un État qui se désengage de politiques agricoles et alimentaires ambitieuses et qui reporte toute la responsabilité du changement de système sur les citoyens et les habitants qui, par leur portefeuille, doivent choisir les bons produits qui vont permettre du coup de changer, de faire la transition à la fois sociale et environnementale du système alimentaire. Or, ce qu'on appelle le consommateur foireux. On se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de limites à ce niveau-là, c'est que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas le choix de ce qu'il mange aujourd'hui en France. On a 7 millions de personnes à l'aide alimentaire, On a 22% des ménages avec enfants qui sont en situation d'insécurité alimentaire, en quantité ou en qualité. 26 millions de personnes qui déclarent ne pas manger ce qu'elles souhaiteraient manger. Donc tout le monde n'a pas les choix en fait de ce qu'ils veulent manger et on se retrouve du coup avec cette dualisation dont je parlais au début, avec des niches qui s'adressent à des personnes aisées, sensibilisées aux enjeux alimentaires pour l'alimentation bio, commerce équitable, etc. Et ensuite tout un régime dominant agro-industriel pour toutes les autres personnes. Et à aucun moment ces niches ne remettent en question le système industriel, d'où le constat qu'on a besoin de politiques publiques pour faire transiter ce régime dominant agro-industriel. Et puis, quand on prend le problème de l'autre côté, on a du coup 7 millions de personnes à l'aide alimentaire qui se retrouvent à consommer tous les invendus de l'agro-industrie, qui depuis 2016 avec la loi Garot fait l'objet de défiscalisation, donc c'est-à-dire que ce qui avant la loi Garot devait être détruit par l'agro-industrie et la grande distribution et qui devait payer des taxes pour les détruire, aujourd'hui c'est devenu une filière rentable de défiscalisation puisqu'elles n'ont plus besoin de payer des taxes et elles donnent ça à tout le système de l'aide alimentaire et elles sont défiscalisées à 66% de leurs dons. Et donc ça pose tout un tas de problèmes. Bah déjà, ça ne permet pas de répondre au problème du gaspillage alimentaire qui était quand même l'objectif de cette loi Garot et qui visait à limiter la surproduction. Donc là, on ne limite plus la surproduction, donc on offre une filière rentable à cette surproduction. Mais en plus, il y a un problème éthique où on accepte que des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir mangent des déchets et ce que les autres ne veulent pas. Avec tout un tas de violences alimentaires, que Bénédicte Bonzi a très bien décrit, qui du coup une sociologue qui a travaillé sur ça, qui a écrit une thèse assez accessible, je trouve, qui s'appelle Fin de droit, que je vous invite à lire, et qui est quand même très, très narrative, donc ça ne rentre pas non plus dans les trucs invisibles. Et qui sont donc des violences à la fois sur les personnes bénéficiaires de cette aide alimentaire, mais aussi sur les bénévoles de l'aide alimentaire, qui se retrouvent à gérer des situations de conflit, de tensions très fortes, d'insatisfaction, de frustration. Et donc, nous, ce qu'on remet en question par ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est vraiment le positionnement politique de l'aide alimentaire et pas le travail que fournissent les bénévoles. Et le fait que l'aide alimentaire, à la base, quand elle a été mise en place en 1987, c'était pour faire face à une urgence et qu'aujourd'hui, elle est systématisée pour assurer un droit à l'alimentation en France qu'elle ne fait pas respecter en fait. Parce que le droit à l'alimentation, c'est pas seulement le droit de se nourrir de produits en plus qui rendent malade, mais c'est aussi le droit à toutes les autres dimensions de l'alimentation, que sont les dimensions sociales, culturelles, de plaisir, identitaires, etc. Et donc, comment répondre donc de manière conjointe et simultanée à l'ensemble de ces enjeux que sont le droit à l'alimentation, la préservation de l'environnement et le droit des travailleurs du système alimentaire. Ce qu'on propose, c'est de s'inspirer sur le déjà-là de la sécurité sociale, qui, à sa mise en place, donc elle a été mise en place en 1946 par le Conseil national de la Résistance, et jusqu'en 1967 à peu près, a fonctionné selon trois mécanismes qui ont permis d'assurer le droit à la santé en France. Et donc, ces trois mécanismes, c'est le conventionnement démocratique des produits de santé. Donc là, nous, on va parler de conventionnement démocratique des produits alimentaires. La cotisation sociale attendue sur la valeur du travail, ce qui permet d'avoir le troisième pilier, qui est l'universalité. Donc, dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation, vous entendez pas bien ce que j'ai dit.
C'est fatigant.
Le conventionnement démocratique, la cotisation sociale et l'universalité.
Merci. Je vais revenir donc, mais je vais passer pour la madame.
La preuve, quoi. Sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, quand on transpose ces trois piliers, ça donnerait le projet qu'on propose, c'est donc l'universalité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une politique pour les pauvres comme l'aide alimentaire. Il s'agit parce qu'on veut pas, enfin, on veut sortir aussi de ces logiques de stigmatisation, etc. Mais aussi parce qu'on veut créer un droit, au même titre que le droit à la santé, on veut un droit à l'alimentation, et donc c'est pour tout le monde. Et en plus que d'un droit à l'alimentation, c'est aussi un droit à choisir la manière dont on veut que les produits soient produits, transformés, distribués. Donc c'est un droit de choisir le système alimentaire aussi. Est-ce qu'il faut que je dise quelque chose de plus sur cette universalité? Oui, donc c'est 150 euros par mois qui seraient versés donc, à tous les habitants en France, et donc pas forcément que les citoyens, toutes les personnes qui vivent sur le territoire français, comme la Sécu d'ailleurs, hein, enfin, il y a plein d'étrangers qui ont une carte de sécurité sociale. Voilà, le deuxième pilier qui est donc le conventionnement démocratique. Donc là, concrètement, ce qu'on propose, c'est de mettre en place des caisses locales d'alimentation, donc ça serait comme des caisses primaires de sécurité sociale, avec des habitants, des habitantes qui composent ces caisses, qui représentent un territoire, donc c'est-à-dire qu'on prend un territoire qu'on n'a pas encore défini, donc est-ce que c'est le bassin de vie, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la commune, mais on prend un territoire. Et les personnes qui composent la caisse sont représentatives de ce territoire pour pouvoir discuter ensemble, s'approprier les enjeux du système alimentaire et être en capacité de définir les critères de production, de transformation et de distribution, donc c'est ce qu'on appelle le conventionnement des produits alimentaires, qui pourront être achetés avec l'allocation de 150 euros que chacun aura. Ces différentes caisses locales, elles s'articuleraient avec une entité nationale, une caisse nationale, qui aurait pour objectif de, oui, bon, d'articuler. Bonjour.
Ben, bonjour, je vais participer, mais je ne sais pas.
Il y a une dernière chaise là. On va se décaler juste une.
Oui, juste une petite question. Comme la salle à côté, elle est pas. Enfin, là où il y avait l'atelier des croissances.
Ah oui.
On sera plus à l'aise, peut-être.
On a plus de temps, on a de l'argent.
Ouais, vous voulez.
On est bien là, on est serré les uns.
Ouais, c'est vrai.
C'est Covid.
Alors, vous aurez peut-être des questions pour ceux qui viennent d'arriver, mais je vais continuer le déroulé de la présentation. Donc les différentes caisses locales seront articulées avec une caisse nationale, donc qui serait composée de représentants de ces différentes caisses locales, et qui aurait pour objet notamment d'harmoniser un certain nombre de critères qui n'ont pas de sens à être réfléchis localement, comme les critères qui visent à répondre à des enjeux climatiques par exemple, ou de pollution des eaux, ou de conditions de travail des travailleurs, etc. Et donc j'insiste là, c'est que, même si je l'ai déjà dit, mais c'est qu'il y a une nécessité de s'approprier les enjeux du système alimentaire avant de conventionner les produits qui pourront être utilisés avec les 150 euros. Donc un grand enjeu d'éducation populaire, qu'on pourra en discuter après. Et donc le troisième pilier, qui est donc la cotisation sociale sur la valeur ajoutée du travail. Donc si 150 euros par personne et par mois, donc enfants compris, vieillards compris, chômeurs compris, tout le monde, ça fait 120 milliards d'euros. Par an, donc c'est un sixième du budget du régime général de sécurité sociale, et c'est le double de la branche santé. Voilà, pour donner peut-être une idée, parce que c'est vrai que 120 milliards d'euros, ça, bon, on se rend compte que ça fait beaucoup, mais ça part pas forcément beaucoup. Donc en fait, le budget du régime général de sécurité sociale, c'est énorme, hein, c'est un énorme budget, c'est supérieur au budget de tous les ministères en France. Donc c'est aussi pour ça que la Sécu a été détricotée assez tôt, parce qu'en fait, on a donné aux citoyens un pouvoir énorme de socialisation, enfin sur la socialisation de la santé, quoi. Donc la cotisation sociale, 120 milliards par an. On a fait plusieurs modélisations donc sur comment on pourrait mettre en œuvre cette cotisation. Donc est-ce que c'est des cotisations salariales ou patronales ou sur le profit, avec tout un tas d'avantages et d'inconvénients. Si c'est de la cotisation salariale, donc ça impliquerait une baisse du salaire net, donc ça voudrait dire qu'il faudrait assurer une augmentation des salaires ou à minima des petits salaires pour compenser la perte. Si c'est de la cotisation patronale, ça implique un bras de fer avec le patronat. Et si c'est c'est du profil également.
Après, non, peut-être que ça, et bon, juste à côté, on a peut-être quand même intérêt à prendre une migration de 10 000, mais là, parce que ça va être.
Mais ça le vive, là.
Ouais, c'est pour ça, peut-être on a intérêt quand même à migrer.
Là, je
veux
dire,
mais
c'est le budget de la santé qui est le plus de la sécurité sociale.
Non, ça va. Bah ouais, c'est ça.
C'est plus lumineux.
Allez, motivez, on est tout oui, concentré et tout.
On va juste comprendre. Ouais. Donc, où en était.
Il y avait plusieurs modélisations.
Le budget, les cotisations. Donc, il y a plusieurs modélisations qui ont été faites qui sont des modélisations assez. J'allais dire bas de gamme, mais enfin voilà, tu m'as écrit d'être vraiment approfondi, notamment sur les effets macroéconomiques de la mise en place de cette sécurité sociale de l'alimentation, qu'on n'a pas encore exploré. Et il y a autre chose qu'il faut que je dise sur cette cotisation, qui ne me revient pas, donc ça viendra peut-être après sur les questions. Et donc peut-être juste finir sur qui porte ce projet aujourd'hui. Donc on est un collectif de 14 organisations. Dont Ingénieurs sans frontières AGRISA, dont je suis membre, qui travaille sur le socle commun de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et on est aussi en train de mettre en réseau tout un tas d'initiatives locales qui se revendiquent de ce projet, donc qui sont des magasins de producteurs, des marchés de pré-vente ou autres, et qui veulent évoluer vers, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un certain nombre de freins, notamment le manque de mixité sociale dans les AMAP, ce genre de choses, qui font qu'ils sont insatisfaits de leur dispositif de solidarité alimentaire et qui du coup se revendiquent de ce projet et qui voudraient aller vers ce projet. Et donc aujourd'hui on a une salariée qui s'occupe de mettre en réseau ces différentes initiatives et des initiatives qui de plus en plus se rapprochent des propositions qui sont faites dans le socle commun, et notamment des caisses d'alimentation qui sont, donc il y en a une qui existe déjà, et qui sont en train de se monter à plusieurs endroits en France, et notamment à Toulouse, où je suis à l'initiative de Toulouse. Voilà. Oui, bien sûr, en fait j'en ai plein, on les vend 2 euros. Si ça vous intéresse, on va les procurer.
Moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est le lien entre cette caisse et la rétribution des producteurs.
Donc, dans le pilier du conventionnement démocratique, c'est donc les habitants, les habitantes qui sont sélectionnés pour faire partie de la caisse locale de leur territoire, qui vont définir les critères de production, de transformation et de distribution de l'alimentation conventionnée, donc qui pourra être achetée avec les 150 euros. Et dans ces critères, il y a notamment des critères sociaux, de conditions de travail, des producteurs, mais aussi des transformateurs, des distributeurs. On peut imaginer par exemple un maximum de différence de salaire entre les plus petits salaires et les plus grands salaires dans une entreprise. On peut imaginer qu'on va conventionner que des produits biologiques ou qui ont été produits sans pesticides ou qui sont locaux. Voilà, c'est vraiment des critères à la fois sociaux, environnementaux et économiques qui seront pris en compte.
Ça concerne tout. Distribution alimentaire ou c'est uniquement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire?
C'est toute distribution alimentaire. En fait,
c'est les grandes surfaces.
Et bien ça dépendra du conventionnement qui sera fait au niveau des caisses. Donc là, il y a plusieurs débats là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que c'est les habitants, les habitantes des caisses qui vont décider de comment ils veulent que la nourriture soit produite, comment ils veulent qu'elle soit transformée, ou et comment ils veulent qu'elle soit distribuée. Donc est-ce qu'on conventionne le clair, ou est-ce qu'on conventionne que les biocoop, ou est-ce qu'on conventionne que les marchés producteurs? Ça va dépendre aussi des critères de conventionnement, c'est-à-dire que est-ce qu'on est OK pour conventionner une entreprise qui rémunère du capital, ou qui rémunère des actionnaires, ou des gens étrangers à l'entreprise?
enfin voilà, tout ça c'est des choses qui doivent être décidées, et pour qu'elles puissent être décidées, ça implique que les gens soient, enfin, puissent faire des, réfléchir en connaissance de cause, donc, et aussi les informations, de comment on produit la nourriture, et de quels sont les enjeux sociaux et économiques qu'il y a dans cette production et dans le système alimentaire. Et ensuite, il y a un grand débat, en fait, notamment au sein des initiatives locales, sur la place de la grande distribution, parce qu'il y a une question à la fois pragmatique, de dire aujourd'hui, les gens ils vont principalement au supermarché pour faire leurs courses. Donc si aujourd'hui on mettait en place la sécurité sociale de l'alimentation et qu'on se dit qu'il faut que ça soit que des marchés locaux, de vente directe, de circuits courts, des biocoops, bah, quelqu'un qui est en zone rurale, clairement, il utilise comment quoi, enfin, c'est 150 euros. Parce que parce qu'il y a des endroits en France où il y a un Lidl et autour des gens.
Il y a des producteurs locaux, c'est tout.
Oui, mais il y a beaucoup de producteurs locaux qui ne vendent pas en local, qui vendent directement sur des filières longues, à l'export, etc. Il n'y a pas du circuit court partout, partout, et en tout cas pas en quantité suffisante aujourd'hui. Et donc la question qu'on se pose, c'est aussi dans quelle mesure conventionner la grande distribution, c'est démocratique. Parce que, en soi, le fonctionnement de Leclerc, ce n'est pas un fonctionnement qui est démocratique. Donc des gens qui sont dans une organisation démocratique pour définir des critères de conventionnement ne pourraient pas choisir de financer une entreprise qui exploite des salariés, qui a des impacts sur l'environnement, sur même ailleurs qu'en France, etc. Et donc s'il y avait conventionnement de Leclerc, est-ce qu'il ne faudrait pas re-questionner l'organisation des personnes dans la caisse en disant en fait si c'était démocratique il ne pourrait pas y avoir de conventionnement de cette entreprise, donc s'il y a conventionnement de cette entreprise c'est que l'organisation n'était pas démocratique et qu'il faut réfléchir à la manière dont fonctionne le conventionnement au sein de la caisse locale. Je ne sais pas si c'est la caisse qui est dit, mais
est-ce que le but c'est d'essayer de conventionner tout le monde ou pas? Pour moi ça concerne plus que le SS, les circuits courts écologiques, etc., ça peut pas concerner la grande distribution. On va conventionner la grande distribution.
En fait, le but, c'est in fine de conventionner tout le monde, parce qu'on aura permis la transition de tout le monde vers des modèles.
Leclerc travaillera autrement un jour.
Soit parce que Leclerc sera devenu un magasin de producteurs, soit parce que Leclerc aura disparu. En fait, oui, l'idée, nous, on part un peu de l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, où on prend des gens tirés au sort, on leur donne les bonnes informations et ils prennent des mesures sur les enjeux climatiques super ambitieuses, tellement ambitieuses qu'elles ne sont pas reprises. Et donc, on pense que des gens bien informés qui ont les moyens de prendre des décisions vont prendre des bonnes décisions. Et donc, vous proposez des critères qui répondront à la fois aux enjeux climatiques, écologiques, sociaux, économiques, démocratiques qu'on a aujourd'hui. Et je finis juste ma phrase. Et la SSA, donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas juste conventionner donc, ces produits-là, c'est aussi donner les moyens financiers d'investissement pour assurer la transition sur les territoires. Parce qu'aujourd'hui, si on dit on veut que des produits bio et locaux, le territoire ne peut pas fournir ces produits-là. Et donc, ça peut être vu comme les cahiers des charges biologiques, où on dit, vous avez 5 ans pour aller vers ces critères, pour répondre à ces critères, et d'ici là, on vous aide pour investir, etc. Et puis, il y a aussi toute la question de comment on reprend le foncier pour permettre l'installation de nouveaux producteurs, etc. etc. Et j'allais dire autre chose. C'est un peu dans le même sens que ce que je dis là, c'est que, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, et c'est aussi ce qui était abordé dans l'autre atelier, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une multiplication des initiatives de bio et de commerce équitable, c'est parce qu'il n'y a pas assez de demande, en fait, pour ces produits. Parce que les gens n'ont pas les moyens financiers de s'acheter ces produits-là, et deux, parce qu'il y a des freins symboliques qui font que quelqu'un issu de l'immigration dans un quartier populaire ne se sent pas concerné, enfin, ça ne correspond pas à son identité. Il y a vraiment une appropriation de ces enjeux-là par des classes favorisées, des catégories sociales éduquées, qui fait qu'aujourd'hui, acheter bio, c'est faire partie d'une catégorie un peu bobo, éduquée, etc. Et donc il y a un rejet aussi de ces produits. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde ait les moyens et financiers et symboliques de s'acheter des produits de qualité choisis. Qui en plus préserve l'environnement et les travailleurs.
Mais du coup, ma question, c'était sur ces moyens symboliques, ces moyens de formation. Est-ce que vous avez pu déjà les imaginer? Est-ce que ça supposerait qu'il y ait des formateurs bénévoles, ou c'est aussi un budget aussi qui fait partie des milliards évoqués? Comment vous avez réussi à avancer sur ce point-là?
Alors, sur la question financière, les 120 milliards, ça implique 3% de... Ça inclut, 3% de frais de fonctionnement qui sont le pourcentage de frais de fonctionnement du régime général de Sécu. Après, c'est certainement pas suffisant, et je pense que le mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation, donc ça coûtera plus cher que ça. Et notamment si on veut payer des gens pour intervenir, pour faire de la formation, de l'éducation populaire. Après, sur les méthodes de faire cette éducation populaire et cette appropriation des enjeux du système alimentaire, cette construction d'une vision commune de ces enjeux, etc. Les différentes initiatives locales dont je parlais tout à l'heure expérimentent déjà tout un tas de choses qui marchent plus ou moins bien. Il y a le débat contradictoire, il y a des visites de fermes, il y a des prises de parole, des venues d'experts, enfin il y a tout un tas de manières qui doivent en plus, je pense, être diversifiées pour permettre vraiment l'appropriation de ces enjeux, avec un grand risque, c'est que l'agro-industrie et les lobbies s'insèrent dans ce processus d'appropriation des enjeux du système alimentaire. Et donc, nous, la question qu'on se pose, c'est comment on fait en sorte de protéger les habitants et les habitantes qui vont être en charge de conventionner de toute la publicité mensongère, marketing et des lobbies de la grande.
Donc, il y a un travail de sensibilisation aussi qui serait fait, ou pas forcément, parce que tu disais la convention pour le climat, c'était des gens en fait tirés au hasard, et au final ils ont été informés, c'est ça? Et ce serait un peu sur ce modèle-là, comment ouais. Ils seraient informés?
Alors c'est plus qu'être informé, enfin il faut vraiment, et c'est aussi pour lever les freins symboliques, il faut s'approprier ces enjeux du système alimentaire, il faut se rendre compte qu'on est. Fait partie de ce système et qu'on est acteur de ce système, et redonner vraiment le pouvoir aux consommateurs d'être acteur du système et à tous les consommateurs.
Et de ne plus être appelé consommateur.
Et d'être appelé mangeur et mangeuse. Non, mais tout à fait. Enfin, c'est vrai qu'on emploie plus le terme de mangeur de mangeuse, mais aujourd'hui on reste quand même des consommateurs. Et donc, oui, il y a tout un. En fait, la première étape, c'est le travail d'appropriation des enjeux du système. Sans lesquels on n'est pas en capacité de définir des critères en connaissance de cause, et donc de définir des critères qui répondent aux enjeux climatiques et environnementaux et sociaux d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on tire au sort des gens, alors je ne dis pas que le tirage au sort, c'est. Enfin, on ne sait pas exactement comment sont sélectionnées les personnes, est-ce que c'est le tirage au sort, est-ce que c'est des quotas, est-ce que. Voilà. C'est des choses qui sont à réfléchir, ce sera peut-être des modèles politiques aussi. Aujourd'hui, on tire au sort des personnes et on leur dit, bah voilà. Vous avez 150 euros, vous allez avoir 150 euros par mois, qu'est-ce que vous voulez acheter avec ces 150 euros? Il y a de grandes chances que dans l'état actuel des choses, les produits qui ressortent ne permettent pas de faire levier et transition du système alimentaire.
Acheter du poulet à 3 euros le kilo.
Notamment, oui, ou acheter
Pourquoi cette somme de 150 euros, ça correspond à ces quelles réflexions?
Et donc, elle a été basée sur ce qui a été entrepris pendant le confinement. Je crois que c'est le palais de la femme qui avait, qui avait remplacé donc, leur dispositif d'aide alimentaire avec un chèque de 5 euros par jour et par personne pour permettre aux gens de choisir ce qu'ils voulaient manger. Donc 5 euros par jour, ça fait 150 euros par mois. Ça corrobore aussi avec des études réalisées pour avoir accès à une alimentation durable, où 120 ou 130 euros c'est le minimum pour avoir une alimentation équilibrée. Voilà, donc on se dit que 30 euros en plus, ça fait pas de mal. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une question de ne pas inonder, de permettre la transition. Si aujourd'hui on file 300 balles à tout le monde, c'est sûr que ça va faire une espèce d'appel d'air à tout un tas de produits qui ne permettent pas de faire la transition, enfin, des produits bio par exemple qui viennent de l'autre bout de la planète ou ce genre de choses. Après,
Bah, y a l'idée aussi d'indexer ces 150 euros à l'inflation. Et puis, il y a aussi l'idée que ces 150 euros, c'est un début, et que petit à petit, on pourra socialiser une plus grosse partie de l'alimentation. Mais ce qui implique aussi de cotiser plus, quoi.
Dans mon syndicat, il y a quelques personnes qui sont impliquées dans cette histoire, qui sont impliquées dans les débats.
C'est quoi ton syndicat?
Ah, c'est bien. Donc les Sud, enfin, un certain nombre de Sud, notamment. Nous, on a déjà des difficultés à se mettre d'accord sur la façon dont il faut gérer, il faut contrôler la sécu, tout court. Et surtout par rapport à la façon dont elle évolue. Ça va, elle m'a envoyé des... Ça semble quelque chose d'assez évident. Et pour reprendre le contrôle de ça, il faudrait déjà que tous les syndicats soient d'accord ensemble. Et à l'intérieur même des syndicats, je peux vous dire qu'il y a des sacrés pour suivre le sujet d'à peu près. Il y a des sacrés, il y a du tirage. Donc sur une sécu alimentaire, je ne sais pas si vous mesurez ce à quoi elle va se confronter. Mais quand vous parlez, donc, normalement, le principe de la sécu, alors j'imagine qu'il y a une partie d'affichage, mais après, il y a le modèle. Je pense que vous mettez d'abord l'affichage, sécu, l'esprit de sécu, mais après, sur le modèle, si vous voulez le plaquer, ça sous-entend derrière des choses très fortes. Sécu, c'est cotisation obligatoire. Ça couvre un territoire, ça couvre tout le monde. Sinon, c'est pas une sécu. La sécurité sociale, elle est obligatoire pour tout le monde. Il y a le régime général, il s'impose. Et déjà, le régime général, il a été très largement affaibli, etc. Et puis, dès qu'on l'a mis en œuvre, enfin, je ne fais pas le dessin pour ceux qui connaissent, en 1945, tout de suite, je veux dire, il y en a 45 000 qui ont dit « Non, nous, on ne veut pas y aller, on ne veut pas en être », et qui ont réussi à ne pas en être. Et c'est pour ça que la Sécu, elle a jamais été, ça n'a jamais été prise en charge à 100%. En plus de ça, vous avez... lobby médecine, etc., la sécu, c'est ça auquel il faut se confronter, lobby des etc., je ne sais pas si c'est meilleur. Alors, évidemment, sur l'alimentation, c'est pas la même chose, mais ça veut dire, tu viens de les citer là, c'est quoi? C'est le lobby du commerce, c'est le lobby du monde agricole, qui n'est pas monolithe, qui n'est pas... Alors, il y a la Confédération Paysanne, c'est bien, mais la Confédération Paysanne, ce qu'elle appelle actuellement dans le monde agricole, c'est, bon, on sait tous, hein. Ils sont très bien, moi j'aime bien la Confédération Paysanne, quand on peut travailler avec elle, on travaille, et c'est souvent qu'on travaille avec elle, sur un tas de sujets, mais ceci dit, quand on voit ce qui se passe dans le monde agricole, certains qui ont vu hier soir sur Arte, par rapport aux pesticides, mais on voit bien, quoi, partout.
Il y avait une conférence de est-ce que tu peux venir à ta question? Excuse-moi.
Bon, voilà. Enfin, non, mais je veux dire, ma question, elle est ça. Enfin, c'est, voilà, sauf à dire, on prévoit ça pendant 50 ans ou dans 100 ans. Bon, c'est bien. On y travaille, on va y travailler, vous avez le temps. Mais sinon, comment concrètement la stratégie, quoi. La stratégie, et ça, c'est, à mon sens, c'est le plus compliqué. C'est pas savoir quel pourcentage, etc. C'est la stratégie face à tout. Au mur d'en face, quoi. Et qui est le mur, il est énorme.
On peut prendre peut-être une toute dernière question, et puis après, on va devoir s'arrêter parce qu'il est déjà 17h. Une dernière question, et puis après, on devra descendre.
Ouais. Moi, déjà, je suis très admirative, et avant de démonter, de dire qu'une sécu, c'est obligatoire, et c'est comme ça, enfin, ce que j'ai entendu, c'est aussi. Enfin, moi, j'ai envie aussi de redonner de la valeur vraiment à ce type d'initiative et de. Et enfin, rien que de les penser, en fait, ça fait vraiment du bien. Et en fait, je voudrais savoir si tu avais dit au départ, si on donne des 150 euros aux gens comme ça par hasard, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Donc, comme j'ai manqué le début, je suis pas sûre d'avoir compris. Au départ, en fait, vous voulez tester, c'est ça, avant que ça puisse être nationalisé. Vous voulez tester, en fait, enfin, cette sécu dans certaines communautés et localités.
Est-ce que je prends toutes les questions
à répondre
ou c'est pour ça que je réponds?
Non, vas-y, parce que moi ma question c'était, parce que je ne me souviens plus, parce que ce qui m'intéresse c'est l'éducation à la transition, et je rêverais, mais
Enfin, je crois qu'on rêve de supprimer la grande distribution dans notre système occidental actuel. Enfin, bon, et l'agroalimentaire, on voit bien qu'ils ont tout fait voir là. Mais par rapport au pacte pour la transition, il y avait des mesures sur la nutrition, mais je me souviens, vous êtes en relation avec les mesures du
Panasta.
Les mesures auxquelles les collectivités locales se sont engagées pour l'habitation, pour la démocratie, etc. Mais
pour les gens,
du coup, il me semble qu'il y en a dans les mesures écologiques pour l'alimentation. Mais bon, c'est pas,
on n'est pas en lien avec ça.
Si, en fait, parce qu'il y a des organisations qui sont aussi dans le pacte, et du coup, ça infuse.
Moi, je ne les ai pas regardées, mais je pense qu'elles d'expérience, j'ai l'impression que ce sera certainement insuffisant. Mais après, je n'ai pas regardé, donc et du coup, alors, maintenant, dans l'autre sens. Non, nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation, qui, oui, est un dispositif, en fait, c'est étendre le régime général de sécurité sociale à l'alimentation, donc créer une cinquième branche à ce régime général. Ben, la cinquième, elle rassemble les quatre premières, donc ils ont la cinquième avec la sixième qui les rassemblera, mais avec de la cotisation obligatoire, effectivement. Et du coup, peut-être tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a tout un réseau de dynamiques locales qui expérimentent des choses, donc qui sont à l'initiative de citoyens et de recherche-action de plus en plus, et qui pourraient permettre d'avoir une vue aussi sur est-ce que, effectivement, quand on est bien informé et qu'on ait les moyens de décider, on fait les bons choix en termes d'alimentation, que ce soit nutritionnel, mais aussi sur le système alimentaire, etc. Mais nous, notre idée, du coup, ça va rejoindre peut-être la question de la stratégie, c'est d'expérimenter un certain nombre de trucs sur le territoire, mais les effets qu'ils auront, ça ne permettra pas d'appréhender les effets de la mise en place d'un dispositif national que serait la sécurité sociale de l'alimentation dans tous les cas. Et donc, au niveau de la stratégie, c'est une question qui est très difficile, en fait, parce que, oui, on a bien une stratégie, après, est-ce que c'est la bonne je ne sais pas, mais il nous semble en tout cas indispensable d'avoir une mobilisation citoyenne majoritaire sur ce projet. Donc c'est multiplier le plus possible toutes les dynamiques locales qui peuvent aller vers ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, fondant comme un horizon commun à toutes ces dynamiques, c'est-à-dire qu'on va vers la SSA et donc chacun ensuite expérimente sur son territoire avec ses contraintes et les différents acteurs quelque chose qui se rapproche de ça. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est de favoriser un maximum le développement d'initiatives de caisses d'alimentation qui fonctionneraient du coup comme les caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation, donc avec de la cotisation volontaire à ce moment-là, avec des adhérents comme une mutuelle, qui définissent démocratiquement, donc qui expérimentent aussi des processus de démocratie, parce qu'il faut se les approprier aussi. C'est ce temps de démocratie directe avec les gens avec qui on vit, etc. Et qui du coup conventionnent un réseau de producteurs sur leur territoire, qui permettrait déjà d'évaluer tout un tas d'effets, d'impact de ça, mais aussi à l'instar de la Sécu, quand elle a été mise en place en 1946, elle a permis surtout d'unifier tout un tas d'initiatives qui existaient déjà. Il y avait déjà des mutuelles professionnelles par branche, par activité, etc. Et donc ce qui a été permis en 1946, c'est l'unification de toutes ces mutuelles, dans un contexte politique particulier. Il me semble que c'est le terme exact, ça serait un débat.
C'est un débat d'apéro, ça.
Ouais, c'est vrai. Alors, je ne pas l'apéro. Mais du coup, ce qu'on se dit, c'est que, et aussi pour éviter toutes les dérives qu'il y a pu y avoir sur la Sécu, parce que tu disais, il y avait des impensés dans la Sécu, notamment les laboratoires pharmaceutiques. Donc, ce qui contribue aussi à ce trou de la sécurité sociale, en imposant leur prix.
C'est qu'on n'a pas du tout discuté les coûts de l'industrie.
Et aussi, peut-être que la mobilisation citoyenne n'était pas suffisamment forte pour défendre la sécurité sociale, ce qui a permis de la détricoter au point où on s'en est aujourd'hui. On n'a plus du tout les moyens, en fait, de contrôler cette sécurité sociale. Donc, la mobilisation citoyenne paraît être indispensable à sa mise en place et à son bon fonctionnement aussi. Donc nous, notre stratégie, c'est ça, en tout cas le premier axe. Après, on a un autre axe, peut-être plus à l'agenda politique avec les prochaines élections de 2027, voilà, pour donner peut-être une. Parce parce que bon, de toute évidence, on a loupé les dernières, mais du coup, ça serait qu'en 2027, on puisse être voilà, une société civile organisée qui porte politiquement ce projet et qui est prête aussi à saisir les opportunités électorales pour sa mise en place. Après, je suis d'accord qu'il y a, y a l'utopie dans ce projet, mais en fait, c'est une utopie qui est concrète. Et l'idée de la sécurité sociale, se baser sur un déjà-là, c'est aussi, parce que ça permet à tout le monde de comprendre et de s'approprier ce projet. Et c'est super dans le contexte dans lequel on est, où tout est déprimant, d'avoir quelque chose d'un peu positif auquel on peut se raccrocher, en tout cas pour les gens de notre génération. Mais aussi parce que ça permet de se baser sur quelque chose qui fonctionne toujours aujourd'hui. Enfin, la sécu, elle n'est pas parfaite aujourd'hui, mais tout le monde a sa carte de sécu et personne ne serait prêt à l'acheter à la poubelle. Quoi. Je pense qu'elle permet quand même d'accéder à un niveau de soins des
affinités. Je suis désolé, c'était frustrant, mais.
Mais
merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.